les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, la gentiane. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue dans le monde de la gentiane, à bord du Gentiane Express. Nous sommes à bord d'un autorail de 1961 sur une des plus belles lignes de chemin de fer de montagne de France. Le train touristique, le Gentiane Express, relie Rion-Es-Montagne à Lugarde. Étant sur le chemin du retour, nous entrons en gare de Rion-Es-Montagne après un trajet au cours duquel nous en avons pris plein les yeux entre le paysage, les viaducs et le petit village de Lugarde.
Merci à tous pour votre visite à bord du Gentiane Express. J'espère que vous avez pu apprécier les grands espaces et les paysages que nous avons vus. La descente s'effectue sur le côté gauche après un régime du train. A très bientôt à bord du Gentiane Express.
Nous voilà donc de retour à Rion-Es-Montagne, où avant notre prochaine rencontre, nous retrouvons Tristan Brouin, le président de l'association, et justement, cette association des chemins de fer de Haute-Auvergne.
L'association, on a quand même énormément de jeunes, hein. Du coup c'est une association qui attire quand même du monde et quelque chose d'assez intéressant à travers toute la France, parce que c'est vrai qu'on a, nous, la chance de pouvoir avoir la gare de Bort-les-Orgues qu'on a rachetée en 2016, dont on est propriétaire, et on est propriétaire également du foyer des roulants, là où dormaient les contrôleurs et les conducteurs quand ils étaient en activité. Donc on a une dizaine de chambres et on peut loger les bénévoles. Donc le bénévole, en fait, vient de toute la France. On a des gens qui viennent de Cannes, de Paris, on a des gens de Bordeaux, enfin vraiment tous horizons géographiques et vraiment tout horizon professionnel aussi, parce que vraiment on a des gens qui sont gendarmes, des profs de musique, on a des gens de la DDE, on a tout là-dedans, on est ouvert à tout le monde. Voilà, on est complètement, nous, on part du principe que toute personne qui veut donner de son temps pour faire revivre ce patrimoine, on l'accepte. On a à peu près 60% de cheminots dans l'association, ce qui permet d'avoir une certaine connaissance de la voie ferrée, de la conduite du train, de la maintenance du matériel. C'est quelque chose quand même qui nous aide au quotidien, et puis qui nous aide aussi dans les relations qu'on peut avoir aussi avec gérer les services de la SNCF. On fait naître aussi des vocations, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qu'on a connus il y a une dizaine d'années, ils étaient tout petits, et puis maintenant ils sont rentrés à la SNCF, ils sont conducteurs, du coup ils ont réussi avec le Gentiane Express à connaître le monde ferroviaire, à se dire ça me plaît et je veux devenir conducteur, contrôleur, agent du matériel. On a fait naître un petit peu des vocations aussi. Ouais.
Oh ben c'est bien, c'est positif ça
tout
aussi.
À fait, ouais. Ouais, tout à fait, c'est quelque chose d'assez touchant. Ouais. Ouais.
Je pense qu'il doit y avoir un sacré plaisir quand on voit les gens qui sont émerveillés ou qui descendent du train tout enchantés.
Ah ben, tout à fait. Ça fait vraiment plaisir, quoi. On se dit qu'on est dans la bonne voie. Et alors, on le voit aussi au travers du soutien des élus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Un train touristique ne peut pas marcher si on n'a pas un soutien assez fort quand même de la population locale et aussi des élus, parce que c'est vrai que nous, derrière, on rappelle aussi qu'on n'est que exploitant pour le compte de la communauté de communes. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas une confiance des élus au travers de l'association ou du train touristique, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que il n'y aura pas d'aide matérielle, il n'y aura pas tout ce genre de choses. Il faut que les élus aient confiance et croient dans le produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille régulièrement aussi en montrant un petit peu les résultats qu'on peut apporter sur le territoire, parce que c'est vrai qu'on parle du train, mais le train, c'est quand même qu'un élément du territoire, un prestataire parmi d'autres, du coup, qui permet aussi le développement économique du pays gentiane, hein, et puis autour. On est un produit qui veut aussi faire découvrir le Cantal, développer l'activité touristique sur le site, en proposant des fois des programmes un peu communs avec d'autres associations, avec d'autres prestataires, du coup, qui viennent nous aider sur des trains, notamment des fois des trains sur la fête des étoiles ou ce genre de choses. Enfin voilà, on fait travailler un petit peu tout le monde.
Vous êtes bien intéressé sur le terroir et vous ne faites pas que transporter les gens découverts sur le plateau.
On connaît un petit peu tout sur le territoire, forcément, on est intégré auprès de l'office de tourisme. Tout ça, c'est vraiment un tout et il faut que ce soit une équipe qui fonctionne. Il faut vraiment avoir une très bonne équipe et bon, c'est ce qui se passe sur le pays gentiane.
Merci bien.
Écoutez, merci à vous et puis au plaisir de vous accueillir sur notre ligne.
Merci.
Avant de monter sur le plateau du Césalier pour suivre notre découverte du monde de la gentiane, il y a un personnage incontournable dans le domaine de la gentiane.
Bonjour.
Charles Jolès.
Je suis le président du Cercle européen d'études des gentianacées que j'ai fondé en 1993 avec deux autres amis mordus de gentiane.
Des passionnés de gentiane qui ont monté un cercle d'études. Vous pouvez nous expliquer un peu ce cercle ?
Alors, notre cercle a pour mission de favoriser la diffusion de l'information et des connaissances sur la gentiane jaune, mais aussi sur toute la famille des gentianacées qui regroupe près de 1100 espèces de par le monde, dont la plupart sont asiatiques. En France, nous n'avons en fait qu'une trentaine d'espèces de gentiane, dont la plus connue et la plus célèbre est la gentiane jaune, de son nom latin Gentiana lutea, qu'on appelle aussi la reine des estives ou la reine des montagnes, et qui est utilisée depuis des siècles pour ses nombreuses vertus.
L'objectif de ce cercle, c'était de faire connaître les missions.
On regroupe à peu près 500 professionnels de la filière, des industriels, des artisans, des botanistes, des scientifiques, mais aussi des exploitants, des arracheurs, des producteurs. Et on essaye de faire vivre tout ce qu'il y a autour de la gentiane, qui est un très vaste monde qui est connu depuis d'ailleurs l'Antiquité.
À ce propos, un peu d'histoire par l'auteur du très beau livre « La gentiane, l'aventure de la fée jaune » aux éditions Cabedita.
Il faut savoir que c'est Jean Sus, un roi d'Illyrie, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a donné son nom à la gentiane et à toute la famille des gentianacées. Il a été blessé au cours d'une bataille en Illyrie, qui est actuellement l'Albanie. Il a dû son salut qu'à une décoction de cette fameuse gentiane jaune qui lui a donc sauvé la vie. Et depuis, la gentiane est passée de plusieurs mondes différents au fil des siècles. Au tout départ, on la trouve essentiellement en médecine et en pharmacie, et aussi dans les cloîtres, où la gentiane est utilisée pour ses vertus essentiellement médicinales. C'est une plante qui est à visée digestive, qui est à visée hépatique, qui est à visée tonique, et aussi, on en a trouvé depuis quelque temps, beaucoup d'autres indications, notamment des vertus antidépressives. Il faut savoir que la gentiane était autrefois le quinquina des pauvres, surtout en montagne. C'était une plante qui permettait de lutter contre les fièvres. Et le quinquina était très cher et la gentiane était un excellent substitut. Et avant la synthèse de la quinine dans les années 1820, la gentiane était une véritable panacée pour de nombreuses personnes qui vivaient dans les régions montagneuses européennes. Après, cette gentiane, elle a bifurqué.
Oui, parce qu'elle est restée longtemps dans le monde médical, pharmaceutique.
Pharmaceutique, mais aussi vétérinaire, puisqu'elle est utilisée pour les mêmes propriétés, pour stimuler aussi un peu l'appétit chez les ruminants et également chez les chevaux.
C'est pour ça que les vaches, elles aiment bien, peut-être aussi, non ?
Ah, c'est pas impossible. Hein. Un petit coup amer, ça donne un lait qui présente une particularité typique de sa zone de production. Donc, de ce monde médical et scientifique, la gentiane a bifurqué au début du XVIIe siècle déjà, dans la fabrication d'eau de vie, dans la distillerie. Les premières distilleries à une certaine échelle sont apparues en Bavière vers 1700-1710.
D'accord, mais c'est quand même, ça remonte.
Ça remonte. Alors, les distilleries ont essaimé après dans toute l'Europe, en France, en Italie, en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Et donc, cette eau de vie était très largement appréciée, non seulement dans les cours européennes, mais auprès des fabricants dans les montagnes, et les paysans qui fabriquaient donc cette eau de vie pour les domaines d'utilisation que je viens de citer. Au début du 19e siècle, la gentiane va migrer après dans l'industrie des boissons. Dans le domaine agroalimentaire, on voit arriver les premiers apéritifs et les premières liqueurs au début du 19e siècle. Et là, c'est une révolution nouvelle pour la gentiane. Et il va y avoir, au début du XXe siècle, jusqu'à 500 marques différentes de gentiane. Donc c'est vraiment tout un univers. Parce que après l'interdiction de l'absinthe dans les années 1910-1915,
il a profité à la gentiane.
Il a bien fallu, pour un certain nombre de personnes, trouver d'autres apéritifs qui aient les mêmes propriétés digestives, apéritives et amères. Et la gentiane a connu un très fort essor à cette période-là. Cet essor, d'ailleurs, on le connaît toujours aujourd'hui, puisque c'est encore 6 à 8 millions de litres de gentiane qui sont encore commercialisés rien qu'en France, sans compter qu'il faut rajouter encore le picon, par exemple, ou l'apérol, qui renferme également la gentiane, même si la gentiane ne constitue pas l'élément principal.
Une sacrée évolution, malgré tout, et puis qui est toujours là.
Et qui est toujours là, et l'évolution n'est toujours pas finie, parce que du monde des boissons apéritives, la gentiane a après migré dans le monde de la restauration. Les plus grands chefs se sont emparés de cette saveur unique et inimitable pour faire des plats typiques. On peut citer Marc et Vera, on peut citer Michel Brass et bien d'autres qui utilisent la gentiane, soit dans des plats avec des viandes et des poissons, pour cette saveur très subtile et bien particulière, mais aussi dans de nombreux desserts. Parce que la gentiane se marie bien avec les eaux amères, mais aussi avec le sucré.
Et oui, mais ça s'équilibre, là, tous les deux.
Et ça s'équilibre, en fait, ça permet une subtile harmonie avec le sucré. Et d'ailleurs, souvent, la gentiane est même utilisée pour masquer un peu le goût prédominant du sucre dans certaines préparations.
Oui. Charles Jolès, docteur en pharmacie, travaille-t-il dans la filière gentiane ?
Pas du tout. J'ai travaillé pendant 40 ans dans une entreprise qui distribuait des produits à base d'acide hyaluronique pour l'arthrose du genou, mais aussi pour les yeux secs. Mais la gentiane a toujours été ma passion, parce que j'ai fait une thèse de pharmacie, justement, sur la gentiane jaune en 1982. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait personne qui réunissait tous les acteurs de la filière. Et c'est de là d'où m'est venue l'idée de créer le Cercle européen d'études des gentianacées, qui connaît un fort rayonnement et qui travaille aussi en large partenariat avec l'association interprofessionnelle de la gentiane jaune, Gentiana Lutea en France, qui regroupe tous les professionnels de la gentiane. Et c'est aussi un bon partenariat avec l'organisation d'expositions, de manifestations, mais aussi, par exemple, la création de la confrérie des gentianaires
à Rayon-Esmontagne,
qui sont les ambassadeurs de la gentiane à travers toute l'Auvergne et bien au-delà, en France et en Europe.
En fin de compte, vous êtes un peu au niveau du cercle, diffuseur européen, alors que l'association Gentiana Lutea est purement française.
Absolument, on est très complémentaires. On a la mission globale de faire rayonner cette gentiane qui est finalement une plante unique dans les estives. Parce que si vous remarquez, la plupart des plantes, elles poussent au ras du sol parce qu'elles cherchent, avec l'altitude, à se protéger du froid. La gentiane est une exception. Elle est grande, elle mesure 1 mètre, 1 mètre 20, et parfois même plus. Dans les Alpes, elle peut atteindre 1 mètre 50, voire 2 mètres.
Ah oui.
On s'aperçoit que cette gentiane a su résister au fil des millénaires à des conditions climatiques particulièrement extrêmes. Et c'est grâce à ses racines. Elle a des très fortes racines qui peuvent peser plusieurs kilos et qui résistent très bien au froid. Ce qui fait que la gentiane a une longévité qui est quand même record parmi toutes les plantes. Elle peut vivre jusqu'à 50 ans.
C'est pas rien. 50 ans.
C'est pas rien. Et elle renferme des trésors pour notre santé, des principes amers, des sucres, mais aussi des xanthones qui sont des pigments qui sont particulièrement intéressants pour leurs propriétés toniques et antidépressives.
Donc des pigments, pas qu'à propriété colorante, à propriété autre que...
Non seulement ça colore les liqueurs à base de gentiane, mais aussi ces substances ont des propriétés très bénéfiques.
C'est sur ce point historique et de l'utilisation de la gentiane que nous nous séparons, suite de notre rencontre avec Charles Jolès, dès le prochain épisode. Au revoir et à très bientôt.